propre à chacune des
Oui.
familles, en fait. Déjà des mères, de leur ressenti physique. Moi, mon mari m'a
Tout à
toujours
fait.
suivie et ça a toujours vraiment été quand moi j'ai ressenti que j'étais prête, qu'on a même commencé à en parler, quoi. Enfin,
Oui, c'est ça,
c'était
c'est
avant
qu'en
d'être une
plus.
décision de famille, il y a déjà
Ouais.
la maman qui va porter la grossesse.
C'est
Et je pense
ça.
que c'est important de s'écouter, de
Tout à
s'écouter,
fait.
d'écouter son corps. Et moi, je savais qu'à chaque fois, j'étais prête. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est bien passé.
Ça
Je
s'est
pense que
bien
ça
passé.
conduit.
Mais à ce moment-là, nous, la femme, on est comme. En fait, on se retrouve déjà, on est pas. Ouais, t'es pas à ton avantage, T'es pas à
on
ton
peut se
avantage,
dire, oh,
t'es
oui.
pas en pleine possession de tes moyens, entre
Non,
guillemets, t'es
c'est
en train de
clair.
donner la vie, donc c'est un peu un truc de fou, en
Bah
fait.
oui.
Et puis, t'es pris dans un truc, enfin, des fois, tu peux même pas ne faire. Enfin, tu peux ne pas faire attention à ce qui se passe autour de toi.
Exactement, parce que t'es focus sur
Voilà,
ce que tu vis. Oui,
exactement.
bien
Donc,
sûr.
il faut que, en amont, t'es donné un peu tes guidelines. Et moi,
Ouais.
c'est vraiment ce que j'ai fait. Je
Ouais.
sais qu'à un moment, je me suis laissée prendre dans
Ouais,
les événements
dans
et
ce que
tout.
tu vivais,
Mais
ouais.
comme ma sage-femme avait bien lu mon projet de naissance, à chaque fois, elle redirigeait le truc
Bah, c'est
dans.
super.
Et, bon, très honnêtement, oui, moi, j'ai découvert mes enfants. Surtout enfin, notre garçon, que je voyais. Enfin, on communiquait, hein. On communiquait, mais je le voyais toujours comme quelqu'un de très, très, très sérieux, en fait.
Bah, faut
C'était.
quand même avouer
Non,
qu'il est aussi.
il est sérieux. Non, mais il est sérieux, mais je voyais pas ce côté. Il avait pas ce
Rigolo.
côté. Je voyais pas ce côté rigolo qu'il avait, en fait,
Ouais.
quoi.
Bienvenue sur le podcast Moana. Moana, c'est la réunion de deux mots. Moan, qui signifie enfant, et Na, qui signifie maman. Ces deux mots sont un petit clin d'œil que j'ai souhaité faire à mes racines, puisqu'ils ont été traduits dans ma langue paternelle, l'ewondo. Une des ethnies de mon pays d'origine, le Cameroun. Moi, je suis Terry, heureuse maman de trois enfants qui ont 11 ans, 7 ans et bientôt 1 an. Et j'élève cette joyeuse fratrie avec mon mari Simao. Ce podcast, j'ai eu envie de le créer pour parler de cette grande aventure qu'est la parentalité. En effet, avec mes invités, nous abordons la grossesse, l'accouchement, l'éducation, bref, tous ces sujets qui font notre quotidien de parents. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Je vous retrouve aujourd'hui, et après 2 semaines de repos bien méritées, où j'ai pris le temps de repenser un peu le podcast. Entre-temps, vous avez continué de l'écouter, et pour cela, je vous en remercie. Nous avons même atteint le palier de 2000 écoutes cumulées, et waouh, pour moi, cela représente beaucoup. Merci. Je vous propose pour les prochaines semaines une nouvelle série d'épisodes où j'aborderai avec mes invités la grossesse. Nous avons parlé de fausse couche, de maladie de grossesse, d'accouchement naturel, mais surtout de la rencontre. Et spoiler alerte, je n'ai pas échangé qu'avec des femmes. J'ai également reçu un super papa et je peux vous dire que waouh, cet épisode sera émouvant. Aujourd'hui, je reçois Sabrina. La première fois qu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle ressent tout de suite l'envie, le besoin, je dirais même, de vivre cette grossesse jusqu'à son accouchement de la façon la plus naturelle possible. Elle partage avec nous quelques tips pour nous aider à appréhender ce moment unique et magique qui est l'arrivée de notre bébé. Bonne écoute!
Bonjour Sabrina!
Bonjour Terry.
Comment ça va?
Ben ça va, écoute, hein, contente de discuter avec toi et de te voir aussi, ça fait un petit temps.
Ouais, c'est
Enfin,
clair. Bah, moi, je suis.
souvent ensemble quand même, mais bon.
Ouais. Moi, je suis super contente aussi de te recevoir pour le podcast parce que c'est vrai qu'on en parle depuis, mais bon, enfin, on se pose et on le fait. Donc, c'est chouette.
Ouais, je suis contente.
Et puis, pour la petite histoire, parce que quand même, je vais raconter, Sabrina et moi, on se connaît, on est même copines, on peut dire.
Oui.
Et c'est trop marrant parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, c'était lors d'un entretien. C'était Sabrina
C'est
qui
ça.
me faisait passer un entretien. Entretien que j'ai eu haut la main. Ouais!
Yeah.
mais ouais, c'était toi qui me faisais passer un entretien. Et là, aujourd'hui, tu vois, la roue a tourné. C'est à mon tour de
C'est ça.
t'interviewer.
C'est moi qui suis dans la position un peu frileuse, effectivement.
Ouais. Donc voilà, c'est trop marrant, la petite anecdote, là. Bon, commençons.
Ouais.
Comme tu le sais, je demande toujours à mes invités de s'ils ont choisi une citation qu'ils souhaiteraient nous partager, une citation qui illustrera l'histoire ou alors simplement une citation qu'ils ont l'habitude de se répéter tous les jours. Voilà. Du coup, est-ce que tu as choisi une citation que tu voudrais nous partager?
Oui, alors j'ai eu du mal à trouver. Et puis en fait, quand j'ai trouvé cette citation, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je dis souvent aux mamans, copines ou collègues, etc., qui sont enceintes et qui sont un peu effrayées. Et je leur dis, là, la citation, c'est « L'accouchement est le seul rendez-vous à l'aveugle où on est sûr de rencontrer l'amour de notre vie. »
Ouais.
Et c'est souvent ce que je dis. Je leur dis toujours, vous verrez, c'est un amour indescriptible. C'est le premier amour que notre enfant, dès qu'on nous met sur nous, c'est vraiment ce premier amour qui est indescriptible et c'est ça qu'on attend. Et souvent, quand elles ont accouché, elles m'ont dit, Sabrina, j'ai pensé à toi parce que c'est vrai. C'est vraiment ça. Voilà la citation que j'ai trouvée.
Ouais, tu sais que cette citation-là, moi aussi, elle me parlait beaucoup et d'ailleurs, je l'avais utilisée dans le blog pour parler. Quand je racontais un peu mon expérience sur la grossesse de Noah, et en fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, tu vois. Mmh. Alors que, clairement, c'était la première fois que je vivais ça, mais ouais, ça, c'est indescriptible.
Indescriptible. C'est vraiment un trop plein d'amour.
Ouais.
Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de forcément passionné ou qui montre ses sentiments, mais là, ça te prend de plein fouet, quoi. Mmh. Et à chaque fois, c'est ce que je retiens. Surtout par rapport aux grossesses, et on va en y venir, que j'ai choisi de faire. Mmh. C'est vraiment ce que je retiens de ça, quoi.
Ok. Eh bien, écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais?
Oui. Donc, moi, c'est Sabrina. Je suis responsable ressources humaines. Alors, je suis métisse, guadeloupéenne. De mon père et ma mère est blanche du nord de la France. Et donc aujourd'hui, je suis avec Loïc qui lui est 100% guadeloupéen. Et donc nous avons deux enfants, Aélia qui a 8 ans et Kezia Lewis qui a 6 ans et demi. Donc ils ont à peine 18 mois d'écart. Voilà.
Ouais, on va en parler justement.
C'est ça.
Ok. Eh bien écoute. Justement, c'est une très très bonne transition. Est-ce que tu peux me parler un petit peu déjà on va commencer par ta première grossesse, de comment tu l'as vécue, etc.
Tout à fait.
Je pense que tu as beaucoup à nous dire là-dessus.
Oui. Alors il faut savoir que de toute façon pour mes deux enfants, on peut dire entre guillemets que ce sont des accidents. Je sais qu'aujourd'hui on peut plus vraiment parler d'accident, mais c'est un peu le cas parce qu'à la base. Normalement, j'aurais dû avoir des difficultés pour tomber enceinte avec une trompe bouchée, etc. Donc, mon gynécologue m'avait dit, écoute, le jour où tu veux être enceinte, il faudra qu'on fasse un petit travail, toi et moi. Donc, ça m'avait vraiment perturbée. Et Loïc, à ce moment-là, avait essayé de me rassurer en disant, non, mais t'inquiète pas, mes spermatozoïdes sont tellement forts qu'il n'y aura pas de sujet, etc. Donc, il m'a fait rigoler. Bon, ça s'était passé quand j'avais eu après cette nouvelle, c'était passé avant que je parte au Canada. Et donc, je suis partie au Canada. Il est vrai que j'avais décidé depuis un certain temps de ne plus prendre la pilule parce que j'avais eu des problèmes au sein à cause de la pilule. Et mettre un corps étranger qui détruit tous nos hormones, etc., je ne voulais plus. J'avais prévenu Loïc hein, et on était en accord sur ça, mais on faisait attention. Voilà. Et de par ce fait que j'étais censée avoir des problématiques pour tomber enceinte, c'est vrai que je ne pensais pas que ça arriverait naturellement. Donc, on est parti au Canada pour mon projet à moi, à Toronto plus exactement. Donc, on a évolué, etc. Et puis, pendant un moment, j'étais vraiment très malade. Enfin, je ne savais pas pourquoi. Et puis, c'est ma mère qui me dit, fais un test, on ne sait jamais parce que tes symptômes, ça a l'air d'être un peu…
C'était moi, quoi tes symptômes?
Mais non, maman. je me sentais vaseuse. Je ne vomissais pas, ce n'était pas nausée, mais je me sentais vaseuse. Je sentais que mes hormones avaient quelque chose de pas logique. Donc, j'ai été faire le test. et puis, il s'est avéré positif. Alors, ça, je ne l'ai pas pris comme une très bonne nouvelle. Ouais, au départ, ouais. Ça a été un choc. Loïc, quand je lui ai dit aussi, pareil, c'était un choc parce qu'on n'était pas dans notre environnement habituel. Ça faisait déjà quelques temps hein, qu'on était au Canada, quelques mois. On commençait à s'en sortir, etc. Donc, c'est vrai que ça nous a pris de plein fouet et que je me suis sentie démunie. Et puis, on en a discuté avec Loïc, etc. Et on s'est dit, bon, que de toute façon, au regard de ce qu'on m'avait dit précédemment, il valait mieux le garder. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? Mais bon, déjà, qu'est-ce qu'on faisait est venu après, c'était plus, faut peut-être qu'on voit quelqu'un, un spécialiste, les médecins, etc. Donc, ne connaissant pas vraiment le parcours au Canada, on a cherché sur Internet, etc. Et puis, j'ai trouvé une espèce d'organisme, etc. Et donc, on y a été avec Loïc. Ce qui était bizarre, c'est que c'est vrai, c'était le seul homme avec moi dans le... Enfin, c'était le seul homme, voilà, dans la salle d'attente, etc. Ouais. Et puis, quand la dame nous reçoit, je vois qu'elle a un air grave et, et elle me dit... expliquez-moi pourquoi vous voulez mettre fin à la grossesse, quoi. Mm-hmm. Je fais, mais j'ai pas envie de mettre fin à la grossesse. Elle dit, mais pourquoi vous êtes là? Je fais, parce que je cherche un organisme, enfin, quelqu'un pour m'aider dans le parcours de santé, en fait, par rapport à la maternité. Et elle me dit, non, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Ici, c'est le, enfin, c'est, je sais plus comment on appelle ça, mais l'organisme pour accompagner les mamans qui souhaitent avorter. J'ai dit, du tout. J'étais choquée. Elle a dit, mais c'est une très bonne nouvelle. En fait, si vous ne voulez pas avorter, c'est super. Et donc, après, elle m'a donné un peu le parcours, où aller, etc. Quand j'ai dit ça à Loïc, il a fait, je comprends pourquoi il n'y avait pas d'homme. Oui. Et encore, on peut comprendre, c'est vrai, mais d'un côté, moi, justement, je ne comprends pas trop parce que, après, ça sera peut-être un autre sujet, mais... Et après, j'ai commencé à faire mon parcours de santé, en tout cas. Mm-hmm. Et puis, je me suis rendu compte que de toute façon, je ne souhaitais pas vivre cette première grossesse loin de ma famille. Surtout que là-bas, j'étais la sécurité financière. Donc, je ne savais pas comment ça se passerait quand je serais en congé en maternité, congé. Etc. Mm-hmm. Donc, on a fait le choix de rentrer. Donc, j'ai dû rentrer, j'étais à 5 mois de grossesse. Donc, quand même les premiers mois au Canada. Mm-hmm. Après, tout le monde m'a dit, pourquoi tu rentres? Tu aurais pu mettre au monde ici, elle aurait été canadienne. Ouais. Franchement, à ce moment-là, j'avais pas envie. En plus, j'avais beaucoup de nausées. Et j'avais juste envie de retrouver les saveurs qu'on a en France, qu'il n'y a pas au Canada. Au niveau de la nourriture, etc. Et d'être accompagnée par ma mère, mes soeurs, etc. Étant donné que c'était la première. Donc retour en France, où très clairement, on était parti, Loïc avait rendu son appartement, enfin notre appartement, donc je retourne chez ma mère. Loïc a retrouvé un appartement sur son lieu de travail, mais on était séparés. Donc cette grossesse, on n'était pas H24 ensemble, il venait le week-end en fait, et m'accompagnait quand il le pouvait au rendez-vous obligatoire. Et de toute façon, j'ai toujours voulu à ce moment-là me dire que je voulais avoir une grossesse naturelle. Alors, de toute façon, les grossesses sont naturelles, mais surtout un accouchement naturel. Donc, ça veut dire sans péridurale.
Ouais. Mais comment t'as... Enfin, sans te couper, déjà, tu disais que tu as vécu cette partie-là quand vous êtes rentrée en France de ta grossesse un peu seule parce que Loïc était à distance et venait au rendez-vous. Déjà, comment tu l'as vécu, ça c'est
pour d'être, toi c'était difficile, surtout que Loïc est quelqu'un aussi qui ne montre pas trop ses sentiments. Et en fait, c'est quelqu'un de très stressé. Et d'ailleurs, son stress se révélait sur ses mains. Il avait de nouveau énormément d'eczéma, mais vraiment, vraiment. Ouais. Et donc, il ne savait pas comment rassurer, ce genre de choses. Donc, franchement, quand même, cette grossesse, elle n'a pas été simple en termes de sentiments pour le couple, en réalité, parce qu'en plus de ça, on ne le vivait pas comme une majorité des couples ensemble. Ouais. Donc, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, etc. Mais heureusement qu'il y avait ma mère et mes sœurs qui étaient là pour m'accompagner, pour m'aider aussi. Et puis, j'avais des copines aussi, en fait, mes copines, quand je suis revenue, déjà, elles étaient contentes. Et puis, il y en avait certaines où on n'était pas très loin. J'avais une de mes meilleures amies aussi qui avait accouché de son garçon avant moi. Et cette grossesse-là, non, c'est la deuxième où on était ensemble. Donc, elle m'a quand même beaucoup accompagnée. Et c'est vrai que ça a été un mentor quand même pour cette grossesse-là. Et donc, ça a été une première grossesse que j'ai voulu quand même simple. Parce qu'en plus de ça, je ne travaillais pas. Donc, j'ai eu le temps de me documenter. Ouais. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de me préparer. Et j'ai eu le temps de me faire accompagner comme je le souhaitais. C'est vrai qu'au départ, quand je suis revenue en France, pareil, je ne savais pas par qui me faire accompagner, etc. Et j'étais sans travail. Donc, j'ai été voir ce qu'on appelait, c'était les PMI.
PMI, oui. Voilà. Oui, la PMI.
Voilà, la PMI. Donc, y avait une sage-femme très sympa qui avait commencé les premiers suivis. Et puis ensuite, et qui m'a conseillé aussi sur l'hôpital, j'ai vraiment choisi l'hôpital de Corbeil. Pourquoi j'ai choisi cet hôpital ? Parce qu'il était neuf et qu'en fait, les chambres étaient individuelles, toutes les chambres étaient individuelles. Okay.
D'accord.
Donc moi, étant un peu sauvage, je voulais vivre ce moment post-accouchement toute seule sans avoir à subir le bébé de quelqu'un d'autre et sans faire subir mon enfant et d'être dans le stress. Je voulais vraiment un environnement calme. Donc, j'avais choisi cet hôpital-là. Et c'est grâce, en fait, à cet hôpital, en fait, il y a des sages-femmes qui ont leur cabinet. Et j'ai suivi de me faire suivre par ces sages-femmes-là. Et elles ont totalement compris mon projet, qui était vraiment d'avoir un parcours plutôt naturel et de me préparer à cet accouchement naturel.
Et justement, le projet, tu l'as, parce que tu disais tout à l'heure que tu t'es beaucoup documenté et tout ça, en fait, c'est venu comme ça, c'est pas quelque chose auquel tu avais déjà réfléchi avant de tomber enceinte.
Non. Ouais. En fait, déjà, ma mère a accouché de ses trois filles sans péridurale. Donc, il y a peut-être aussi un peu d'orgueil de se dire.
Une transmission aussi.
Maman, est-ce y arrivée, pourquoi pas moi ? Je te disais précédemment que. La pilule, etc. J'avais pas trop confiance au corps médical et ce qu'on nous injectait. Donc vraiment, je me suis dit, je vais me renseigner sur la péridurale, mais je ne voulais pas qu'on m'injecte un corps étranger qui ne me permettrait plus de maîtriser mon corps et de ce qui se passe après avec mon bébé. On n'a pas toutes les mêmes capacités, je ne juge absolument pas. C'était mon choix à moi. Et je me disais, Sabrina, tu as la force d'esprit pour y arriver. Sans péridurale et puis c'était peut-être aussi une victoire pour moi, enfin je sais pas, quelque chose, je me suis dit maman il est arrivé, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas et après je me suis vraiment documentée dans ce sens là, puis je te disais que j'avais vraiment une amie à moi qui l'avait fait sans péridurale et qui m'a aussi, qui a été mon mentor et qui m'a donné les livres aussi pour bien me documenter, me préparer et arriver à cet accouchement, avoir un accouchement autre, mais c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était pas si simple en fait à cette période là. Parce que déjà ta famille, alors pas ma mère, parce qu'elle l'avait fait sans, mais même Loïc, hein, le premier, s'est moqué de moi quand je lui ai dit je vais faire sans péridurale. Il fait oui, bien sûr. Bien sûr, on verra. et d'autres qui me disaient mais pourquoi ? Enfin, franchement, tu peux ne pas souffrir, pourquoi souffrir, etc. C'est pas une histoire de ne pas souffrir ou souffrir. C'était vraiment pour moi cette volonté de faire confiance à mon corps, à mon esprit et d'aider mon enfant le plus naturellement possible. Je te promets, j'avais vraiment peur que ce corps étranger puisse avoir un impact le développement de mon enfant. Quoi. Donc, c'était vraiment pour moi un mantra. C'est hors de question. Et à l'hôpital, d'ailleurs, quand je me fais suivre, tu sais, ils te suivent au septième mois, je crois, sixième ou septième. La personne que j'avais vue m'avait clairement dit ne le dites pas à l'anesthésiste, faites le rendez-vous anesthésiste, ne le dites pas, parce que si jamais vous la voulez, vous serez plus prioritaire. Mais tu sentais que c'était pas quelque chose de logique, de naturel. Les gens te regardaient sans comprendre, mais pourquoi en fait s'infliger ça ? Et malgré tout, quand même, ils respectaient, mais heureusement que je me suis fait suivre par ces sages-femmes qui avaient compris mon concept, donc ce que je voulais.
Ouais, c'est souvent en fait le retour hein, qu'on peut avoir parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent cet accouchement naturel. Et d'ailleurs, j'en discutais même avec Patricia, avec qui j'avais fait le podcast, qui a vécu aussi un accouchement naturel et qui disait que souvent, c'est vraiment très important d'être accompagnée même dans le milieu médical parce que finalement, à un moment donné, quand on va se retrouver au moment d'accoucher, en fait, ils ont besoin d'avoir toutes les informations dont on a besoin, on va dire, au moment, à ce moment-là. D'ailleurs, toi, comme toi, t'avais pu le préparer. Hein, et justement, si... quand ils ne l'ont pas, ça peut être un peu plus compliqué derrière de faire accepter son choix. Enfin, il faut vraiment être sûr et certain qu'ils ont bien pris en compte ta demande et qu'ils le respecteront jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai qu'il y a souvent ce retour de personnes qui se disent avoir été jugées sur le moment parce que, je ne sais pas, parce que c'est le milieu médical et que voilà. Et je trouve que c'est dommage, quoi, finalement.
Le milieu médical, quand tu regardes bien comment ça se passe, comment ça se passait dans le passé, tout ce qui est mis en place, c'est pour plutôt le confort des médecins et des infirmières, des aides-soignants, etc., plus que pour le confort de la femme. En tout cas, avant, c'était comme ça. La position sur le dos, jambes écartées, c'est pas du tout une position naturelle.
Ouais.
Et ça n'aide pas du tout à faire venir l'enfant. C'est une position qui permet aux médecins ou gynécologues, etc., d'être lui à l'aise pour faire venir l'enfant. C'est pas le contraire. Et c'est comme ça, c'est grâce à mes lectures que j'ai pu m'en rendre compte et des films aussi que j'avais vus, que mes sages-femmes m'avaient préconisé. Il y avait un film dont je ne sais plus le nom, bon bref. Et c'est ça qui m'a fait m'en rendre compte parce qu'en réalité, en tout cas à l'époque, le corps médical ne te donnait pas vraiment le choix. On te dit allez avec la péri, de toute façon, vous, il n'y a pas de souffrance, etc. Et beaucoup de femmes, si elles ne se documentent pas, ben pour elles, oui, ça paraît logique, on ne va pas se poser de questions. Et voilà, donc c'est ce que je pouvais reprocher en tout cas à l'époque au corps médical, c'est de ne pas tout expliquer. Voilà. Voilà ce qui peut se passer avec la péridurale, voilà ce que vous pouvez faire sans péridurale, on peut vous accompagner sur les deux choix. Non, en fait, ils ne laissaient pas vraiment le choix, on parle de péridurale, on parle d'anesthésiste, comme s'il n'y avait pas d'autres portes de sortie.
Ouais, exactement. Et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. C'est ça qui est fou. C'est...
Bon, là, après, je ne sais pas, ça fait longtemps maintenant, mais...
Ouais, mais enfin après ça fait
j'ai l'impression que ça se démocratise un peu plus parce que les sages-femmes aussi sont formées dans ce sens-là. Il y a les doigts là, etc. Il y a un peu plus ce côté naturel qui revient dans tous les items, hein, tu vois, dans ce monde aujourd'hui. Et beaucoup de femmes de plus en plus en fait se renseignent et voient que c'est possible de le faire aussi de manière naturelle. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, ce que je regrette, non, il ne faut pas avoir de regrets, mais au Canada, il y a énormément de maisons de naissance.
Ouais, et de doula d'ailleurs aussi.
Voilà. Et en France, j'ai cherché, et il n'y en a pas, peu, il y en a peut-être une ou deux en Île-de-France. Ouais. Et c'était mon regret, j'aurais peut-être voulu accoucher chez moi. J'ai voulu, mais Loïc clairement ne voulait pas. Il disait non, s'il se passe n'importe quoi, etc., il faut qu'on puisse s'occuper très vite du bébé. Donc, voilà.
Il faut dire aussi que, parce que depuis tout à l'heure, justement, tu parles un peu de Loïc et de son avis. Rappelons aussi qu'en fait, il travaille dans le milieu médical et c'est pour ça que parfois, il peut avoir aussi cet avis très rationnel. Oui. Qui le rattrape.
C'est ça, très clairement. Il travaille dans le milieu médical, ce qui nous a aidés, on y reviendra. Mais il a ce côté rationnel. Et puis, néanmoins, ça reste quelqu'un d'angoissé. Donc, même s'il essaye de le cacher, ça reste quelqu'un d'angoissé. Et là, il me le cachait, mais c'est son corps le montrait, par son eczéma, etc. Donc voilà, mais voilà pourquoi j'ai fait ces choix-là et comment je me suis renseignée. Et j'ai été accompagnée par les sages-femmes qui ont compris mon projet. Et donc voilà. Et j'avais fait mon projet de naissance, d'ailleurs. Et j'avais entendu que les projets de naissance n'étaient pas forcément très bien acceptés par le corps médical. C'était toujours vu un peu, oh là là, ces femmes reloues là qui vont nous. Mais bon. Moi, ça m'égale, hein, je suis un peu rebelle. J'ai fait ce que je voulais, qu'il faut l'amener de manière, plutôt de manière positive, sans imposer. Donc, mon projet de naissance était vraiment écrit au conditionnel, je souhaiterais, sans imposer, voilà. Et puis, voilà, mais ma grossesse s'est très bien passée. Enfin, moi, je porte très bien mes grossesses. C'est ce que me disent les gens. Enfin, je pense que j'aurais pu être mère porteuse. Je crois qu'un jour, quelqu'un m'a dit ça. Tu pourrais être mère porteuse, que toi, ça se passe bien. J'ai la chance vraiment que mes grossesses se passent bien. Alors, bien sûr, il y a quelques désagréments. Les nausées, je ne pouvais pas tout manger, etc. Mais c'est, en soi, ça se passait très bien. Je marchais beaucoup parce que je parlais beaucoup à mes bébés d'ordre général. Parce que je suis persuadée qu'il y a un lien dans le ventre, in utero, et que quand on les prépare, qu'on leur parle, etc., ils nous entendent et eux aussi se conditionnent à ce qui se passera lors de l'accouchement et de l'expulsion, parce que c'est un gros travail aussi pour eux. Donc, j'ai toujours parlé à mes bébés, il y a toujours eu ce lien. Et, alors, pour ma fille... Il n'y a pas eu d'anecdote particulière, mais il y en aura une pour celle de mon fils.
Okay.
On y reviendra par rapport à ce lien, je pense. Et je suis persuadée. Mais bon, après, on peut prendre pour une folle, c'est pas grave.
Alors, voilà. je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce que tu dis par rapport au lien. Tu vois, moi, je n'ai pas eu d'accouchement naturel. De toute façon, j'ai eu une césarienne, donc par définition, ce n'est pas naturel. Mais en fait, ce lien, je l'ai ressenti quand même déjà quand tu portes, in utero, hein, comme on dit, quand tu portes vraiment ton bébé en toi, il n'y a pas à dire, il y a quand même, il se passe quelque chose de toute façon. Peut-être pas. Oui, d'ailleurs, ça peut, enfin, peu importe à quel moment ça commence, hein, parce que je pense que ça peut commencer même très, très, très tôt. Comme le fait de pour mon premier, je ne vais pas dire que je l'ai ressenti très tôt. Voilà, mais tu vois, par exemple, ma dernière, j'ai senti très tôt que j'étais enceinte, en fait. Tu vois, je l'ai senti. J'ai su à un moment donné, comme je parle beaucoup de ressenti, de pressentiment et d'intuition ou quoi, mais moi, j'ai eu l'intuition que j'étais enceinte. Et puis, j'ai fait un test et en fait, j'étais enceinte. Donc, je me dis que peut-être quelque part, c'est cette petite graine-là, à un moment donné, qui m'a parlé, qui m'a dit « Eh oh, je suis là !» Tu vois, enfin, donc, non, je suis sûre qu'il se passe, je suis sûre qu'il y a vraiment une connexion entre la maman et son fœtus, son bébé, enfin, voilà. Ça, c'est, oui. J'en suis sûre.
Je pense aussi, et je pense réellement que tout ce qu'on fait, d'ailleurs, pendant la grossesse, nos sentiments... l'environnement dans lequel on est, etc., a un impact dans le développement de notre bébé et dans dans son cerveau aussi, etc. Mmh. J'ai eu très peur, vraiment, pour ma première grossesse, parce que comme je ne le savais pas, je crois que je l'ai su, j'étais quand même déjà à deux, pratiquement trois mois. Mmh. J'avais vraiment pas fait attention. Au Canada, je m'amusais, hein, donc alcool, etc.
En plus, j'ai cru entendre que la vie au Canada, c'est assez sympa.
Oui, c'était sympa. On était jeunes, avec Loïc, on s'est amusé, quoi. Ouais. Et j'ai pas fait du tout attention. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça m'a traumatisée. J'ai vraiment eu peur que mon enfant ait des séquelles. À cause de ça. Et ça m'a rassurée quand elle est arrivée de voir que ce n'était pas le cas. Mmh. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait un focus à me dire, il faut que je fasse en sorte que ma grossesse soit la plus naturelle possible, que je lui apporte le plus de choses possible, le plus de sérénité possible, le plus de force possible. Un peu peut-être pour contrecarrer les premiers mois qui ont été désastreux, où je ne savais pas qu'elle était là et j'ai fait un peu, j'ai fait la fête, je n'ai pas pris forcément soin de mon corps, etc. Donc, il y a peut-être ça aussi inconsciemment qui a fait que j'ai fait ce choix-là. Okay. Et puis, voilà.
Et alors, l'accouchement, comment ça s'est passé le jour J?
Oui, le jour J. Alors, le jour J, j'ai fait un rêve et puis j'ai perdu les os dans mon lit. la flaque d'eau là et tout ça, j'ai dit bon, c'est le départ, allons-y. Ma sœur vivait aussi avec ma mère à ce moment-là et c'est elle qui me regarde, elle me dit « Mais Sabrina, dépêche-toi, on était là, toute tranquille et tout, mais t'as perdu les os. » Alors que moi, j'avais lu qu'il fallait, juste regarder s'il n'y avait pas de sang dans les os, si elles étaient claires, il y avait du temps. Donc, en fait, moi, j'ai pris mon temps, je me suis même douchée, je me suis mis bien, on a appelé Loïc, donc comme on était pas ensemble, on a eu du mal à joindre, parce que c'était la nuit, hein, il devait être 2-3 heures du matin.
Ah oui.
Donc après, c'est sa mère en fait que j'ai appelée, je lui ai dit essayer de joindre Loïc, ma mère va m'emmener à l'hôpital et il nous rejoindra. Alors, il y est arrivé, hein, il est arrivé une demi-heure après. Il m'a raconté l'anecdote de son côté. C'était enfin, lui, il a taxi. Il a dit j'ai pris un taxi. Je crois que j'ai jamais fait aussi vite pour arriver chez sa mère, prendre la voiture, nous rejoindre. Enfin, c'était enfin, lui-même, il a eu une angoisse, mais il est arrivé à temps. Et puis, j'ai donné mon projet de naissance. Et en fait, on est resté. On nous laissait, tu sais, dans une salle, tous les deux, pour commencer le travail et tout. Mm-hmm. J'avais mon ballon. Ma mère, et je me souviens, ma mère était dans la salle d'attente. Et les deux premières heures, j'étais avec elle et Loïc. Et Loïc s'était amusé à me filmer parce que tu avais vraiment ces moments où tu es normal. Mm-hmm. Et après, la contraction arrive et là, tu es… Et il me filmait avec ce visage d'horreur, tu vois. Et, là, et puis après, ça s'arrête. Et puis après, ça recommence, tu vois, c'est le cycle et tout. Et après, on nous a mis dans la... Quand elle a regardé à combien j'étais, je ne me rappelle plus. Et ils nous ont laissés dans une salle. Mm-hmm. Et donc, j'avais mon ballon. Et j'étais... À ce moment-là, je ne pouvais plus rien avoir sur mon sexe, etc. Il fallait qu'il soit libre. Ouais. Et j'étais sur mon ballon à me balancer. Mm-hmm. Loïc était là, à m'encourager, etc. Et puis, est arrivé... très vite où je supportais même plus le ballon, je pouvais plus être assise, et en fait je me suis mis à quatre pattes.
Okay.
Et pratiquement tout mon travail, je l'ai fait à quatre pattes. Alors bien sûr, il y a eu les vomissements, etc., parce que la douleur font vomir en fait. Ouais. Et Louis, qui a l'habitude de tout ça, justement savait qu'est-ce qu'il a été chercher les outils pour que je puisse vomir. Mmh. Quand j'étais à quatre pattes, on avait le monitoring là. Mais moi, je me souviens même plus parce que j'étais tellement concentrée dans ma bulle, dans ma douleur, savoir maîtriser ma douleur, ma respiration, et Loïc qui m'encourageait, que je ne sais même pas quand il y a des sages-femmes qui sont arrivées, etc. Mais c'est lui qui gérait en fait avec les sages-femmes. Et c'est lui qui me nettoyait, parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir, il y a eu tout ce qu'on peut penser. Hein. Ouais. Et c'est lui qui m'a nettoyée, qui était à mes côtés. Je ne dis pas que ça n'a pas été difficile, parce qu'à un moment, j'ai dit, ouais, franchement, j'ai mal, quoi, c'est dur. Ah. Il a fait, vas-y, je suis à côté de toi, tu vas y arriver. Et confiance. Et c'est ça,
c'est
en fait.
C'est super, il était... C'était vraiment il t'a encouragé jusqu'au bout, quoi.
Ah oui, c'est vraiment ça, en fait. À un moment, oui, j'ai failli céder. Et il m'a dit, c'est lui qui m'a redonné la volonté. Donc, je suis repartie dans mon truc. Et à quatre pattes, ça a commencé à... Tu sens quand ça arrive et tout. Donc, il m'a mis sur le lit. J'ai vu les gens commencer à arriver et tout ça. Et en fait... j'étais sur le côté droit. Et en fait, ma fille, j'ai accouché de ma fille sur le côté droit. Okay. J'étais sur le côté. J'étais pas sur le dos, j'ai vraiment été sur le côté.
Ouais. Okay.
Non, j'étais sur le côté. Et ça a été vite, parce que l'expulsion, je pense que ça a été hyper vite. D'ailleurs, je n'écoutais pas du tout les sages-femmes ou les infirmières, je ne sais même pas qui étaient là. Je poussais quand j'en avais envie. Mmh. Et même à un moment, j'ai poussé trop. Mmh. Et ce qui fait que ça... comme Aélia était un gros bébé, ils n'ont pas eu le temps de bien contrôler au niveau de la tête, ce qui fait que ça a déchiré en fait les lèvres. Ouais. Loïc a vu ça, il m'a dit j'ai vu ça, j'ai fait oh! Wow. Des fois il me dit quand je revois ça c'est chaud, quoi, tu vois. Mais moi je ne les ai même pas entendus me dire arrêtez-vous de pousser, parce que mon corps me disait de pousser, donc moi je pousse, quoi.
Tu t'écoutais, vraiment concentré dans ton truc.
Ah oui,
quoi.
Pour moi, la douleur était tellement intense qu'il fallait que ça sorte. Fallait que le bébé sorte, parce que ce moment-là d'expulsion où tu as quelque chose entre tes jambes et tu as du mal, etc., c'est désagréable, hein, quand même. Ouais. Donc voilà. Et puis, elle est arrivée. Et puis, le premier amour de ta vie, quoi. Tu te dis, on te le donne, on te le met. C'est tout un... Enfin, c'est une explosion de...
D'émotions.
Je sais pas, d'amour, d'émotions... Et puis de fierté aussi.
Ouais. Parce que ce que j'allais te dire, tu as dû te dire, c'est moi qui ai fait ça.
Ouais, voilà. C'est moi qui ai fait ça. Avec Loïc, tous les deux, on y est arrivés. Naturellement aussi. Ouais. Donc, dans ce que je souhaitais vraiment. Et puis voilà. Et puis après, bah, Loïc, c'est il a profité un peu, il a porté sa fille et tout ça. Et puis après, lui, tout de suite, travaille. Il faut qu'on gère ça et tout ça. Donc, bah, il a dû partir pour prendre des affaires, je ne sais plus. Et puis, une infirmière ou une aide-soignante est arrivée. Et puis, j'étais debout. En fait, j'étais vraiment en forme. Ma fille est arrivée, donc j'ai eu la rupture, comment on dit ça, ma poche des os qui s'est rompue.
La poche des os qui s'est rompue, ouais.
Ouais, voilà, vers 1h, 2h du matin, ma fille est arrivée à 8h30. Tu vois. Donc, il ne s'est pas passé beaucoup de temps, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas énormément souffert en soi. Enfin, je n'ai pas souffert longtemps. Enfin,
c'était intense sur le moment, mais finalement, ça a été rapide. Quoi.
C'était rapide, ouais. Et quand la dame est arrivée... Et donc, j'étais debout très vite. Vraiment, moi, au bout d'une heure, je tenais mon enfant, j'étais debout, j'étais en forme, vraiment.
Ouais.
Et elle est arrivée dans la salle, elle a fait « Oh là là, Madame Bic, si toutes les patientes étaient comme vous, ça serait génial, mais on n'aurait plus de taf, quoi. » parce que en finalité, on n'a pas vraiment eu... C'est pas qu'on n'a pas eu besoin d'eux, tu vois, mais on a su se débrouiller tous les deux.
Bah oui.
Et en soi, après, j'étais vraiment en forme. Et on a passé la première journée, cette première journée de découverte avec bébé et tout ça. Ma mère m'attendait dans ma chambre quand je suis montée vers 11h. Mmh. Et puis voilà. Et ma fille faisait 4,50 kg.
Ah ouais, un gros bébé.
Ouais. 52 centimètres, elle était bien portante et voilà, la mise au sein et tout. Là, ce qui m'a fait plus mal presque, tu sais, c'est quand ils m'ont recousu mes lèvres. Là, par contre, ça m'a fait mal. Je lui ai dit, mais ça fait mal. Pourtant, elle a fait, je vous ai mis une petite un spray anesthésiant là, mais rien du tout. Mmh. C'était pire que ce que j'avais vécu avant. Et voilà, très bien passé. Ma fille, la première découverte. C'est vrai que les 3 jours à l'hôpital, même si c'est le premier, ce qui était bien aussi dans cet hôpital-là, c'est qu'ils ne lavent pas le bébé tout de suite.
Okay.
Vraiment. Et d'ailleurs, je ne voulais absolument pas que dès que ma fille soit sortie de mon ventre, il ne fallait pas qu'elle me quitte à aucun moment.
Ouais.
Et c'était bien parce qu'ils font vraiment tous les premiers soins, etc., dans la salle de naissance.
D'accord.
Louis qui était là, je lui avais dit tu restes à côté d'elle et tout. Il était là, il a pris les photos et tout. Et en fait, ma fille, on n'a jamais été séparés. À partir du moment où j'ai accouché d'elle, on n'a jamais été séparés à l'hôpital. Peut-être 2 minutes, tu sais, quand ils font, je ne sais pas, l'espèce de test sur le doigt, là, mais j'étais pas bien.
Mais je suis étonnée, c'est.
Ils me l'ont ramené et on n'a jamais été séparés. Et,
j'allais dire, d'ailleurs, quelle chance, parce que moi j'ai jamais vécu d'accouchement où on ne me sépare pas de mon bébé, forcément, puisque j'ai eu que des césariennes. Mais du coup, ouais, c'est... Tu sais, quand on part avec lui comme ça, bon, heureusement qu'à chaque fois, Simon était là pour suivre et rester à côté. Mais c'est vrai que c'est presque déchirant, tu sais. C'est violent, on te retire
sur ton
ventre. Tu vois, toi, tu as encore cette habitude, tu sais, d'avoir ton bébé qui bouge dans ton ventre. Puis finalement, elle sort, c'est bien, tu es contente et tout, tu es bien. Et puis en fait, ça dure quelques secondes et puis on l'emmène, quoi.
Ouais, c'est dur. Je l'ai jamais vécu, heureusement. Mais je me mets à ta place et ouais, c'est pas simple. Bon, en tout cas, j'ai eu cette chance, mais en même temps, je l'ai un peu peut-être un peu imposé. Tu sais, aussi, tu as la première nuit où ils te disent si vous voulez, on peut vous le prendre pour. J'ai fait non, elle reste avec moi. Elle dormait même avec moi. Alors, ça avait le don un peu de. J'ai eu quelques remarques, mais ça m'était égal. Mm-hmm. Ma fille a dormi ses premiers mois avec moi parce que je l'allaitais. Mm-hmm. J'avais fait le choix d'allaiter. Pareil, dans le même principe, parce que c'est naturel, parce que ça lui apporte tout ce qu'il fallait dès le départ et que j'en étais capable et que j'avais les sages-femmes qui m'accompagnaient pour ça. Mm-hmm. Ça n'a pas été de tout repos, hein, ça n'a pas été
j'allais
simple.
Te demander comment ça s'est passé au départ, la première mise au sein, comment tu l'as vécu, comment elle-même l'a vécu.
Aélia était une petite gourmande, donc elle s'est très vite débrouillée. Moi, j'adorais en fait quand même donner le sein. Alors, je ne dis pas que ce n'était pas douloureux au début, il faut s'habituer à ça, mais ça me paraissait tellement naturel que que j'en étais heureuse quand même que ça marche, parce que je sais que ça ne fonctionne pas forcément pour toutes les mamans.
Ouais.
Mais nous, en tout cas, ça fonctionnait bien. Alors, j'ai eu hein, à un moment une infection, et c'est grâce à une amie pharmacienne que j'avais eu de la fièvre.
Okay.
Et j'avais mal à un de mes seins et j'en avais parlé à une amie qui travaillait en pharmacie. Elle m'a dit, Sabrina, tu peux faire une infection, donc je sais pas, appelle ta sage-femme, etc. J'ai appelé, elle m'a fait venir tout de suite. Non, elle est venue. Effectivement, c'était ça. Et elle m'a massé, etc. Elle m'a montré comment masser mon sein. J'ai pris des trucs naturels, les feuilles de chou, etc. aussi, tu vois, à mettre dessus. Et c'est parti. C'est vrai que c'est parce que j'avais chaud.
En fait, tu as eu une infection parce que tu dis qu'on t'a massé. Parce que moi, je comprenais, je pensais que c'était une infection suite à une crevasse, par exemple. Mais en fait, c'est quoi? C'est à l'intérieur? Alors, est-ce que tu peux juste...
Non, en fait, j'avais mal choisi mon soutien-gorge d'allaitement. J'en avais pris avec des armatures. Et en fait, les armatures serraient mon sein à de mauvais endroits. Et en fait, ça fait que ça a obstrué. Et donc, à force que ça obstrue, eh ben, ça m'avait fait une infection. Et forcément, tu fais de la fièvre, etc. Le seul moyen que ça part, c'est que ton bébé tête pour faire partir l'infection. Mais en même temps, toi, il faut que tu masses ton sein. Mais ça fait mal. Mais il faut le masser, etc. d'une certaine façon. Donc, la sage-femme était venue pour m'aider à masser mon sein. Elle avait massé la première fois. Après, elle m'avait montré. Et pareil, de mettre, je crois que c'était des feuilles de chou que j'avais mis à ce moment-là sur ton sein, etc. Pour faire sortir l'infection. Et puis, pendant 2 jours. Et puis après, ça c'est reparti, quoi. En plus, Aélia, elle faisait que ça. Elle prenait par jour, elle devait prendre plus de 40 grammes. Alors que normalement, un enfant, prend les 20 grammes par jour. Okay. C'est un gros bébé, hein, vraiment. Donc, elle tétait bien. Et voilà. Mais ce qui était bien quand même à cette période-là, qu'ils avaient mis en place la sécurité sociale, que maintenant tout le monde a accès, c'était le Prado où les sages-femmes justement viennent dès la maternité. Moi, j'avais déjà choisi ma sage-femme, donc tout de suite elle m'a suivie, et de venir aussi le lendemain de ta sortie d'hôpital, parce que franchement ça a été difficile, hein, la sortie d'hôpital où tu étais dans un petit cocon à l'hôpital, un peu préservé avec ton enfant et tout, et puis tu sors de là, de ce cocon. T'as pas tes habitudes. En plus, Loïc et moi, on avait toujours pas d'appartement ensemble, donc je vivais toujours chez ma mère. La chambre était pas faite. Enfin, stress. Ma fille, la première fois que, en arrivant à la maison, on lui retire sa couche, il y avait du sang. Ça m'a. J'ai appelé ma mère, j'ai pleuré parce que ma mère m'a vue quand je suis arrivée de la maternité avec mon enfant. Elle a vu mon visage, elle a fait toi, ça va pas.
Ouais.
Et j'étais, je sais pas pourquoi, j'étais pas bien. Et quand j'ai vu le sang sortir de la cocotte de ma fille, j'avais parce que j'ai halluciné et j'en ai pleuré. Elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas, c'est rien et tout. Et heureusement que la sage-femme qui a ce suivi, en fait, constant, pour te rassurer, le baby blues, etc. Je pense que j'en ai eu un petit quand même, mais qu'elle a été là pour me rassurer tout du long. Et ça sert beaucoup, en fait. De toute façon, maintenant, c'est obligatoire. La sécu, elle le met en place. Donc, c'est très bien. Avant, c'était réservé qu'aux mamans qui accouchaient par voie naturelle. Je crois que maintenant, c'est ouvert à toutes les mamans.
Oui, parce que moi, je me rappelle justement... Alors, pour Noah, je n'ai pas eu de sage-femme qui... Et pourtant, je pense que j'aurais bien apprécié parce que, clairement, moi, c'était un choc du début à la fin.
Donc, oui.
Voilà. Mais bon, j'ai été accompagnée surtout après par ma maman, mes tantes et compagnie. Pour Ayana... c'est pareil, en fait, j'ai pas du tout eu de... Pourtant, Ayana et Aélia ont sensiblement le même âge, je crois. J'ai pas eu de sage-femme qui m'ont suivi après. Je me rappelle, j'avais eu un souci au niveau de ma cicatrice qui s'était réouverte. Et en fait, j'avais dû faire appel à une infirmière qui passait me faire les soins, mais j'étais pas du tout suivie par une sage-femme. Alors, c'était vraiment compliqué, hein, parce que déjà, tu as ce problème de césarienne et puis en même temps, tu as ton bébé qu'il faut t'occuper, ton chéri travaille. Oui. Donc, j'étais vraiment toute seule. je me rappelle, c'était vraiment compliqué. Et puis là, j'ai été surprise parce que, effectivement, je pense que maintenant, ça doit être obligatoire parce que cette fois-ci, effectivement, j'ai eu une sage-femme qui m'a suivie. Et je peux te dire que ça m'a fait énormément de bien. Je ne vais pas spoiler ici parce que je vais parler justement de ce retour de couche là, enfin de ce retour de couche, de ce postpartum là, de ma dernière grossesse, où vraiment, j'ai cru à un moment donné que j'allais partir et Dieu merci, il y avait la sage-femme. Donc, tu vois, effectivement, avant, ça ne devait pas être obligatoire parce que moi, je n'ai jamais eu, comme je n'ai pas accouché de, par voie naturelle, bon, voilà. Et là, le fait qu'elle était là pour la dernière, enfin, la dernière grossesse, là, mais heureusement, quoi.
Ah bah oui, moi, moi aussi, ça m'a aidé. Et puis, j'encourage vraiment, s'il n'y a pas de problématique particulière qui oblige un suivi gynécologique, de se faire suivre avec, par des sages-femmes, de choisir sa sage-femme. Ouais. Vraiment, parce que normalement, si elle fait bien son travail, elle va nous accompagner dans notre projet. Vraiment, le projet qu'on aura choisi, c'est son boulot, en fait. Donc, et moi, c'était exactement ça, et je les remercierai jamais assez, parce qu'elles m'ont vraiment écoutée, accompagnée, et c'était super, quoi. Donc, heureusement qu'elles étaient là, même pour, tu vois, même si on, ça paraît, je suis une femme forte, etc., ben, néanmoins, j'ai quand même eu un petit baby blues, j'ai... Voilà, je suis quelqu'un comme j'aime tout maîtriser. Quand je ne maîtrise pas, bah, voilà, ça m'angoisse. Ouais, là, j'étais un peu angoissée quoi, avec le premier bébé. Mais... Et c'est elle, d'ailleurs, qui m'avait donné l'astuce du lait maternel qui guérit tout.
Ouais.
Donc, le lait maternel guérit tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'avait dit de mettre le lait maternel sur le nombril de ma fille. Pour le faire sécher plus vite et qui donc partent plus vite. Aussi sur les cicatrices, que je... Alors, j'ai eu de la chance, hein, je n'ai pas eu d'épisiotomie, etc. Mais je pense que l'épisiotomie peut être évitée, d'ailleurs. Tout dépend de la position dans laquelle on accouche, etc. Mais bon, comme on... le corps médical nous oblige à être comme eux le souhaitent, l'épisiotomie se fait trop facilement. Alors qu'en fait, elle peut être évitée. Mais en tout cas, c'était le cas. Elle m'avait dit de mettre aussi du lait maternel sur mes cicatrices, etc. Ça guérissait beaucoup de choses. Et effectivement, le nombril de ma fille est tombé assez vite, a séché assez vite. Et voilà, donc maintenant, je donne ce conseil aussi. Le lait maternel guérit tout. Enfin, c'est vraiment la chose principale. C'est le lait maternel.
Je confirme. Tu vois, une autre petite anecdote. Et même d'ailleurs, quand on a des crevasses, hein, au niveau, quand on allait, ça peut arriver qu'on ait des crevasses. Moi, j'en avais eu pour ma première grossesse, j'avais beaucoup de crevasses, ça faisait extrêmement mal. Et ben, c'est ma mère qui m'avait donné ce conseil. Elle m'avait dit, bah, tu prends un petit peu de ton lait et puis tu étales là où tu as tes crevasses et tu verras, elles vont guérir. Et ben, franchement, ça fonctionnait, mais du feu de Dieu. Donc,
ah oui?
Voilà. Et pareil, j'avais mon fils qui faisait un peu d'acné, d'acné du nourrisson, etc. Ben, je mettais un petit peu de lait maternel aussi. Ben, les boutons séchaient. Enfin, non, mais c'est magique, ce truc-là. Ouais. C'est magique. Ben, ça vient de nous.
C'est ça. Donc, il n'y a rien de mieux. Hein. Donc, et moi, ma fille a été très peu malade, si ce n'est pas du tout. Très vite, très dégourdie. Très vite, elle s'est mise, tu sais, parce que comme elle dormait avec moi, alors elle dormait sur le ventre. Mon bébé fait partie de ceux qui ont dormi sur le ventre. C'était pas bien. Oh là là, elle en est pas morte.
Ouais, bon, après, c'est pas
elle, bien. Elle avait choisi, c'était comme ça. De toute façon, elle dormait avec moi. Donc, pareil, pas bien. Mais franchement, c'est
pas mal de soucis. C'est pas que j'ai envie de te couper, mais pas bien. Bon, je sais que toi, tu penses pas que c'est pas bien.
Ah non, pour moi, il n'y a pas de bien, pas
mais,
bien.
Voilà, c'est ça, en fait, que je voulais dire. Je voulais dire, mais en fait, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, c'est pour le... Enfin, après, oui, il y a des risques, etc. Et les risques, on les connaît. On peut encore les citer ici, si on veut. Mais le pas bien, moi, j'aime pas trop le dire parce qu'en fait, il y a des enfants qui ont... Bah, en fait, un enfant, pour moi, c'est un être à part entière. À un moment donné, il va avoir ses habitudes, ses envies. Et ça commence dès tout petit, en fait, hein, peu importe qu'il ait un
bébé, jour. Ouais.
Voilà, il va avoir des positions qu'il préfère plus que d'autres, etc. Moi, ma fille, elle dort les pieds en l'air. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, ben... Je ne vais pas l'empêcher de dormir les pieds en l'air parce que, soi-disant, je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, bref, il faut aussi écouter son bébé de temps en temps, bien sûr, en surveillant. Je ne dis pas que les risques n'existent pas, mais par contre, de dire que oh, ce n'est pas bien, bon.
Final, non, mais ouais, voilà, c'est le corps médical. Enfin, si tu les écoutes, bon. Alors que moi, pas du tout. Et c'est vrai que je partais du principe aussi que, de toute façon, un bébé, et je l'avais lu, quand il sort du ventre de sa maman, c'est comme s'il était dans le vide. Et donc, beaucoup, je ne critique pas, je ne juge pas, mais beaucoup de parents, quand ils rentrent, mettent leur bébé dans une chambre à part. Mais c'est horrible pour eux. ils sont dans le vide total. Et alors, c'est pour ça qu'il faut soit les emmitoufler, très serrés, pour qu'ils se sentent toujours comme dans le ventre de la maman, soit proches de soi. Alors, moi, pour Aélia, elle dormait avec moi. Donc, c'était le choix que j'avais fait. Et elle dormait très peu, malheureusement, mais quand même, elle dormait avec moi. Pour mon fils, j'ai fait un autre choix, j'ai fait une transition. J'avais le berceau qui s'accroche à ton lit, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, le cododo, voilà, j'avais pris le cododo et ça marchait très bien aussi, mais comme ça, ils sont près de nous, ils ne se sentent pas abandonnés, etc. Donc voilà, moi en tout cas, j'avais fait ces choix-là. Puis pareil, on m'a après pour mes enfants tout naturel, donc je faisais leur liniment. Donc avec alors je mettais de la cire d'abeille, de l'eau de chaux et de l'huile de calendula. Et mes enfants n'ont jamais eu de fesses rouges ou quoi que ce soit. Rien. Je faisais mon aliment. Vraiment, je faisais tout pour que ça soit le plus naturel possible. Ouais. Le plus naturel possible. Ouais. Et j'ai même fait, ma fille a fait du massage, massages des femmes sénégalaises. Alors, ça m'a fait très mal au cœur.
Ouais.
Bah, ils pleurent parce que on les dérange dans leur bien-être, là, dans leur petit cocon.
Mais après...
C'est vrai que ça m'a fait. Mais après, elle a tellement bien dormi qu'elle dormait peu.
Parce que tu as dit que c'était massage sénégalais, mais en fait, ce massage est. On fait beaucoup ce massage en fait dans beaucoup de pays d'Afrique.
Oui.
Et franchement, c'est et on le fait même aux femmes qui viennent d'accoucher. Hein. Alors je dis pas, hein, c'est dur, ça fait mal, etc. Enfin voilà. Mais alors non, franchement, tu ressors de là. En tout cas, le bébé, on voit bien un bébé apaisé, mais qui dort. Tu sens que vraiment, je sais pas, son corps est tout léger, tout, enfin, je sais
c'est
pas.
Ça. C'est ça. Bah, écoute, j'ai vu quand même une différence parce que Aélia a marché très tôt. Elle a marché à 10 mois. Petite fille très curieuse, etc., expiègle. Donc, elle avait eu les massages et son frère n'a pas eu les massages. Et lui, alors, je ne sais pas s'il y a une corrélation, hein, mais lui, il a marché à 14-15 mois déjà.
Il n'était pas pressé. Il prenait son
temps. Non, pas pressé, tout ça. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, je fais ce lien-là. Lui, j'ai pas pu lui faire des massages parce que là, tout simplement, Loïc, lui, ne voulait pas. Voilà, la rationalité des personnes dans les hôpitaux et en fait, surtout de voir le bébé souffrir.
Ouais.
Comme on ne vivait pas ensemble quand ma fille a grandi, il ne le voyait pas quand je faisais des massages. Et même quand il m'avait dit « oui, tu n'en fais plus », je le faisais quand même. Par contre, pour mon fils, on vivait ensemble. Donc là, il était là et il était en contrôle. Quoi. Donc, non.
Donc, écoute, ça fait une belle transition justement pour parler de ton fils. Et comment il est arrivé, lui, alors?
Alors, il est arrivé, je sais exactement quel jour. En tout cas, comment il s'est formé, parce que je me rappelle de ce moment-là. Et un accident, oui et non, mais ce n'était pas normalement voulu. Et donc, quand j'ai appris, pareil, ça a été... Alors, à ce moment-là aussi, avec Loïc ne voulait plus d'enfants. Et c'est vrai que c'était... on était un peu en... Comment dire, un petit peu en contradiction. Il voulait qu'un enfant parce que, comme je te dis, c'est quelqu'un d'angoissé. Pour lui, un enfant, c'est tellement de responsabilités, ça lui amène tellement de stress qu'il ne voulait pas réitérer ce stress. Donc, quand on en parlait, il était catégorique. Et donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu peur quand même de lui dire. Mais je lui ai dit. Et je lui ai dit au téléphone et il m'a dit « Ok, salut. » Il a rapproché. Donc, j'étais un peu, j'ai eu un peu un choc. Puis moi-même, j'étais choquée parce que j'avais toujours entendu qu'il fallait laisser son corps se reposer avant de faire une nouvelle grossesse, etc. Et là, il s'était passé à peine un an. Donc, j'avais peur de ne pas pouvoir réitérer ce que j'ai pu faire pour ma fille parce que mon corps n'aurait pas eu le temps de se régénérer, de se remettre sur pied. Néanmoins, le bébé était là, je voulais pas avorter ou quoi que ce soit, donc on l'a gardé. Et donc, à ce moment-là aussi, je travaillais. Contrairement à ma fille où, au Canada, je travaillais, mais dans les débuts, là, bah, dès le départ, en fait, je travaillais. J'avais un CDD. Donc aussi, ça m'a stressée parce que je m'étais remis, j'avais eu du mal à me remettre sur le marché de l'emploi. J'étais restée 10 mois hein, avec ma fille bah, sans travailler. Et donc là, j'avais eu du mal à trouver. Donc, tombée enceinte, je me suis dit, mince, je ne sais pas comment on va faire. En plus, ils sont rapprochés. Enfin, tu vois, tu as toutes les notions de garde, etc. Les finances, en fait, qui commencent à arriver dans ta tête et tu te dis, oh. Et on n'habitait toujours pas ensemble. Donc, vraiment, les débuts dans un stress un petit peu important. En plus de ça, ma DRH où je travaillais était, était angoissante, était très stressante. Et j'étais heureuse de terminer ce CDD pour profiter pleinement de la grossesse de Kezia. Je m'en suis quand même beaucoup voulu. Ma fille me prenait quand même beaucoup de mon attention. Et donc, c'est-à-dire que je n'ai pas pu donner pendant ma grossesse, enfin à mon fils, ce que j'ai pu lui donner à elle, toute l'attention que j'ai pu donner, etc. Je restais sur mon credo naturel, etc. Mais c'est vrai que je m'en voulais quand même parce qu'elle me prenait énormément de temps, d'énergie, etc. Bon, la grossesse se passe bien, se passe mieux d'ailleurs qu'à Elia. J'avais beaucoup moins de nausées. Le test, tu sais, du diabète, là, on te fait boire un truc hyper sucré. Pour ma fille, je l'avais vomi en 2 secondes. Pour lui, c'est passé crème. J'étais là, tranquille, enfin vraiment la grossesse de mon fils.
Toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Hein.
C'est ça, totalement différente. J'avais juste un problème d'hernie au ventre où je ne pouvais pas porter grand-chose. Oui. Et d'ailleurs, quand j'étais très stressée, et ma DRH m'avait causé un moment de stress intense, j'avais des crises de douleur, j'avais eu très peur. Et j'avais été voir d'ailleurs un médecin pendant que j'étais enceinte. Et on va revenir au corps médical, mais il m'avait dit, bah oui, je peux vous opérer, etc. Mais j'ai dit, mais je ne veux pas, en fait, qu'on m'opère. Enfin, pour moi, il y avait
une dichotomie entre,
voilà, pour m'enlever cette hernie. Et puis, il était pressant. J'étais sortie de là en pleurant, en me disant, mais ce n'est pas possible, en fait, je n'ai pas envie. En même temps, il m'avait alarmée en me disant, oui, mais bon, si cette hernie, tu sais, enfin, si y a une vraie crise et que les intestins pas se casser, mais qu'il y a une crise en fait, que le nœud serre et que en fait ça puisse plus, enfin qu'il y ait un gros problème, bah, c'était dangereux pour moi et pour l'enfant. Oh. Et il m'avait mis un stress intense.
Ah, j'imagine.
J'ai dit, j'en ai pleuré. Loïc, il m'a dit, vas-y, on va faire un deuxième avis et tout. Et le deuxième avis m'a dit, enfin le deuxième médecin m'a dit, non, enfin je vous anesthésierai, je vais pas vous anesthésier alors que vous êtes à 6-7 mois de grossesse, oui, c'est hors de question. Par contre, et je lui avais dit, mais moi je veux même pas qu'on ouvre mon ventre alors qu'il y a un enfant, enfin je. Et il a dit, par contre, je vais vous donner les risques, donc vous devez rien porter, vous devez vraiment être la plus sereine possible, etc. Parce qu'effectivement, s'il y a une crise, bah, on devra opérer en urgence. Donc bah, là, on faisait vraiment beaucoup attention. C'est pour ça que j'étais contente de ne plus travailler, de ne plus avoir ce stress.
Le stress, oui.
Voilà, et de pouvoir me reposer pour bien gérer la grossesse de mon fils. Entre-temps, bah, avec Louis, qu'on cherchait un appartement, etc. Puis j'avais dit à mon fils, on arrivait vers la fin, et j'avais dit à mon fils, tu ne sors pas tant que maman n'a pas les clés de l'appartement, etc. Donc voilà, ça suit son cours. Et puis le jour où j'ai eu les clés, j'ai dit à mon fils, c'est bon, maintenant maman est prête, tu peux arriver quand tu veux. Et puis voilà. Et le soir même, j'ai eu des contractions. C'est pour ça que je te dis que pour moi, il y a un lien, vraiment un lien inexpliqué. Parce que tant que je n'étais pas prête et que je lui ai dit que je n'étais pas prête, il n'est pas venu. Et le jour où je lui ai dit, c'est bon, maman est prête, eh ben, j'avais des contractions. Pour lui, je n'ai pas perdu les os. Ça a été des contractions. Donc, pour moi, c'était nouveau. Je ne savais pas trop si c'était ça et tout. Je suis partie faire la vaisselle. Elles ont dû commencer à minuit, 1h du matin. Moi, j'aime bien coucher le matin, tu vois. À minuit, 1h du matin, j'ai été faire la vaisselle. Je me suis un peu affairée. Et je voyais qu'il y avait plus d'intensité. Je me suis dit, bon, bah, c'est ça, je pense. Donc, j'ai appelé Loïc, etc. Enfin, comme la première fois, quoi, parce qu'on n'habitait pas encore ensemble. On avait les clés, mais on n'avait pas encore notre appartement. Et je me suis souvenue de la douleur à ce moment-là, des contractions. Ma belle-mère est venue chercher ma fille pour la garder, parce que ma mère, elle partait dans le nord. Et bah, je suis partie à la maternité avec Loïc. Là, c'est Loïc qui m'a emmenée. On est partis ensemble, et comme la première fois, dans le même hôpital, comme la première fois, tous les deux. Sauf que là, ça a été beaucoup plus vite. Et là, j'ai fait tout mon travail à quatre pattes. Et à un moment, j'ai vraiment senti une explosion, paf! Et j'ai dit, je crois qu'il est là. Donc Loïc, il est arrivé, il a dû me porter pour me mettre sur le lit, et j'y arrivais même pas. J'avais mes jambes, c'est qui étaient trop, vraiment fébriles. Il m'a mis sur le lit, et sur le côté gauche cette fois-ci. Okay. Et mon fils, il est arrivé, mais lui sur le côté gauche, en à peine 20 minutes. Tu vois, je t'ai dit, j'ai eu mes premières contractions à 1h du matin. On a dû partir à l'hôpital à 4-5 heures du matin. Mon fils est arrivé à 7h30.
Ok. Alors toi, vraiment, waouh.
Donc, rapide et tout. Un petit peu plus petit, lui, il faisait 3 kilos, près de 3,7
kg. Mais attends, c'est quand même un super gros bébé, qu'est-ce que tu me racontes, plus petit?
Ouais, mais dans notre famille, on est habitué à des gros poids, tu vois. Donc, pour moi, c'était une petite crevette, 3,7 kg. J'ai fait, bah, dis donc.
Waouh.
Et tous les deux sont arrivés une semaine avant, à chaque fois, de la deadline. Et pareil, tout s'est bien passé. Là, j'avais vraiment l'appréhension par rapport à sa sœur, plutôt comment elle allait prendre, etc. Donc, j'avais vraiment demandé que ma fille vienne vraiment les derniers jours à l'hôpital pour que moi, je puisse profiter de lui, tous les deux, pendant quelques jours avant qu'elle vienne. J'ai eu le même process. Hein. Il dormait avec moi. Les sages-femmes qui disent « Mais non, il ne doit pas dormir avec vous, etc. » Je n'écoutais pas, il était avec moi.
En plus, tu avais déjà l'expérience de la première, donc tu étais encore plus à l'aise que la première fois, j'imagine.
C'est ça. Donc lui, comme d'hab, hein, on a continué comme ça. Et puis, on est rentré. J'étais toujours suivie par les sages-femmes pour la première fois. Et ça s'est très bien passé. Pareil pour lui aussi, j'avais eu une petite infection quand j'allaitais. Mais ça s'est très vite résorbé parce que je connaissais. Déjà, c'était très bien. Et puis, tout s'est bien passé. Maintenant, ils sont en pleine forme.
Et tu l'avais allaité aussi?
Oui, plus longtemps. À Elia, j'ai allaité que 3-4 mois parce que, comme je te disais, elle buvait énormément. Donc, c'était tout le temps, donc très fatigant. Et à un moment, j'ai voulu rechercher du travail, tu sais, au bout des 3-4 mois. Et peut-être mon cerveau à ce moment-là s'est dit, il y a eu un truc, parce que quand je me remettais à chercher du travail veut dire que tu n'auras plus forcément le temps d'allaiter. J'avais tiré mon lait et tout ça, je tirais mon lait, mais elle n'était pas contente, parce que quand je tirais mon lait, c'était quand j'allais faire des entretiens, c'était pour que ma mère puisse se donner le biberon ou à son père. Elle n'était pas contente et tout. J'ai lutté avant de trouver le biberon, la tétine, je m'en souviens, ça a été horrible, qu'elle voulait. On en a acheté tellement, et en finalité c'était les mâmes que les mâmes qu'elle voulait. Et je pense que mon cerveau, quand je me suis mise à dire, bon, il faut que tu te remettes à trouver un travail, etc., en fait, j'ai arrêté de faire du lait. J'ai pu faire tout ce qui était possible, j'ai arrêté. À partir du moment où j'ai donné le biberon à ma fille, en fait, il y a eu un truc dans mon cerveau et ça a arrêté, c'était trop dur.
Je pense que ce truc-là, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui se passe certainement à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, tu vois, pareil pour la dernière, là, j'ai allaité 6 mois quand même. Alors, beaucoup me disent c'est très bien. Je ne suis pas forcément pro-allaitement, en plus, à la base, parce que je n'ai jamais vraiment aimé ça. Sauf que là, la dernière, je l'ai ressenti un peu différemment, c'est bizarre. Et c'est pareil, en fait, c'est à partir du moment où j'ai dû reprendre le boulot. J'avais 6 mois de congé maternité. Dès que dans ma tête, en fait, je savais que la semaine prochaine, ça y est, je reprends. Donc, j'y pensais, tu vois, je me disais, j'ai pas envie d'arrêter de l'allaiter. Mais du coup, vu que même si je fais du télétravail la plupart du temps, je me disais quand même que j'aurais peut-être un peu moins de temps. Et puis, elle sera aussi un peu gardée. Et tout. Donc, on va moins se voir, elle va moins téter comme elle tète habituellement. Et dans ma tête, en fait, je me suis dit, j'y pensais, tu vois. Et j'ai eu l'impression que c'est ce qui a un peu stoppé le truc. Parce que, sincèrement, à 6 mois, mais vraiment 6 mois pile, elle n'en voulait plus. Et du coup, je ne produisais plus de lait non plus.
C'est ça, tu vois.
Ouais, mais je l'ai mal vécu, sur le moment. Je ne pensais pas, ça m'a fait un choc, en fait. parce que j'étais pas prête. Je me disais, enfin, moi, je m'étais un peu fait un espèce de projet là où ces deux frères, enfin mes deux aînés, je les ai allaités pendant 9 mois chacun. Donc je me disais, je veux qu'ils aient tous la même chose. Et puis en fin de compte, enfin voilà, j'étais comme un peu déçue de pas aller au bout de ce que j'avais prévu, quoi.
Ouais, bah oui, je comprends. Ouais. Bah moi aussi, hein, ça m'a fait un choc. Hein. À un moment, tu culpabilises un petit peu. Ouais. Mais faut pas après. Bon, faut s'écouter. Hein. Au moins, déjà même d'allaiter 2-3 semaines, c'est bien. Il faut 2 semaines pour qu'ils aient quand même tout ce qu'il leur faut. Donc, faut pas se culpabiliser, en tout cas, de ça. 3 mois, en tout cas pour Aélia, 3 à 4 mois, c'était bien. Et pour Kezia, 6 mois. Pourquoi 6 mois, lui? Bah, je crois que c'était pareil parce que effectivement, j'ai repris le travail et que voilà, et on a dû s'arrêter, quoi. Mais il était très bien portant, voilà. Même de toute façon, c'était plus le papa qui a dû gérer leur poids, hein, parce que c'est lui qui les emmenait. On avait trouvé un mode de garde, heureusement, grâce au travail de leur père, qui est dans le milieu hospitalier, donc il y a les crèches des hôpitaux. Et voilà, quoi. Donc, il les a emmenés, il les portait dans le RER. Il a eu son premier lien avec ses enfants à ce moment-là.
C'est clair, il y a de quoi. Ok, bah écoute, franchement, c'était super intéressant. Et d'avoir comme ça ton retour sur tes grossesses et tes accouchements. Hein. Totalement naturel, comme quoi voilà, c'est tout à fait possible. Et ce que je retiens surtout, c'est que faire un projet de naissance, en fait, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément encore très très, on en voit de plus en plus, mais voilà, c'est pas encore à 100% ça, mais en fait, il faut pas hésiter à le faire, hein. En dernière partie, j'aime bien demander, voilà, si tu as si tu as une leçon que tu retiens de cette expérience là que tu as vécue autour de ces deux grossesses, de ces deux accouchements naturels, et puis après, si tu as un message à faire passer ou des conseils à donner.
Ce que j'ai retenu, c'est surtout qu'on est capable de beaucoup de choses, nous les femmes, en tout cas notre corps, tant qu'on en a la volonté, en fait, tout est dans la tête. Alors après, je sais, on n'a pas toutes les mêmes chances génétiques. Moi, j'ai pas eu de grossesse compliquée ni d'accouchement compliqué. J'entends que pour certaines, ça ne le soit pas parce que le corps ne le permet pas. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, faut pas se sentir coupable. Le plus important, c'est que nos enfants arrivent en bonne santé. Et puis, après qu'ils arrivent de la façon, que ce soit par... sans péri, avec péri, césarienne, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils arrivent en bonne santé. Après, c'est encore mieux quand ça suit la volonté qu'en tout cas on avait, et que vraiment il faut s'écouter. Faut pas écouter ce qui se passe autour de nous, ce que disent les gens, etc. Parce que moi, si j'avais écouté, je ne sais pas, j'aurais accouché avec péridural. Même mon conjoint, hein, au départ, il ne me suivait pas. Hein. Et puis après, c'est lui qui était fier de dire aux gens « Ma femme, elle a accouché dans péri !» Donc, même son conjoint, il faut vraiment s'écouter soi d'abord, écouter son enfant, parce que je suis persuadée qu'il y a cet instinct, il y a ce lien dès in utero, quoi. Et voilà, et on est capable de beaucoup de choses. Donc si je devais donner un dernier conseil, c'est ça, c'est vraiment de s'écouter, de faire ce dont on a envie, surtout de trouver le moyen d'y arriver. Si le corps médical ne nous suit pas, on cherche un autre endroit, etc. Pour avoir l'accouchement que l'on souhaite.
Ouais. Ok.
Voilà, si je peux dire que mes derniers conseils.
Ouais, écoute, merci beaucoup hein, pour cet échange riche. Ça, c'est sûr. Et voilà.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci, Thierry. À bientôt. Bye bye.
Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours ou à me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. pouvez aussi continuer de me suivre via le compte Instagram dédié au podcast @moine.na. À bientôt.